Camille Magnard.
Bonjour. C'est le plus important mouvement de population depuis le début de la guerre en Syrie. 325 000 habitants de la province de Deraa commencent à rentrer chez eux. Rebelles et émissaires russes ont signé vendredi un accord de cessez-le-feu. Le pouvoir recule face à la violence de la rue. En Haïti, la hausse drastique du prix des carburants est suspendue. Les manifestations, lynchages et pillages s'étaient multipliées depuis vendredi à Port-au-Prince. Veille de congrès à Versailles pour Emmanuel Macron, le grand discours de politique générale de demain devant les parlementaires réunis sera boycotté par une bonne partie de l'opposition. Entre bilan et projection vers l'avenir, nous verrons ce qu'en attendent les élus de la majorité. Des milliers de déplacés qui rentrent chez eux dans le sud de la Syrie, dans la province de Deraa, dès l'annonce vendredi du cessez-le-feu conclu entre combattants rebelles et émissaires de la Russie, on a commencé à observer les premiers mouvements de population. Selon l'ONU, plus de 325 000 habitants de la région avaient fui les combats depuis le 19 juin et le lancement par le régime de Damas de son offensive particulièrement dévastatrice pour chasser les rebelles. Nicolas Feldman est le correspondant de France Culture au Moyen-Orient.
Au premier jour de l'offensive, il y a deux semaines, Ahmad quittait avec sa famille son village du sud, près de la ville de Deraa.
Le jour où on a décidé de partir, il y a eu deux ou trois frappes russes. Le lendemain, on a appris qu'ils avaient frappé une dizaine de fois.
Pendant quelques jours, la famille a trouvé refuge dans une école désaffectée près de la frontière jordanienne. Mais le cessez-le-feu conclu avant-hier a finalement convaincu Ahmad de rentrer chez lui.
J'aurais préféré aller en Jordanie, mais ils ont refusé d'ouvrir leurs frontières, on ne pouvait rien faire d'autre. L'armée n'est pas présente dans mon village, mais le gouvernement peut y entrer d'une minute à l'autre.
Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU dit ne pas pouvoir encore chiffrer l'ampleur de ces retours. Linda Tom est la porte-parole de l'agence OCHA.
Nous sommes préoccupés, aussi bien pour les personnes qui sont restées chez elles que pour celles qui sont revenues dans leur village. Les gens ont besoin d'assistance humanitaire et d'être protégés. Ils devraient avoir le droit de rentrer chez eux en sécurité et avec dignité.
L'accord pour un cessez-le-feu prévoit à terme le retour des institutions syriennes dans la province de Deraa, majoritairement sous contrôle rebelle depuis 7 ans. Selon l'agence officielle syrienne Sana, les rebelles ont de leur côté deux options, rester à condition de remettre leurs armes ou bien choisir d'être évacués vers Idlib, la dernière province aux mains de l'opposition dans le nord du pays.
Nicolas Feldman à Beyrouth. L'impatience et l'angoisse dans le nord de la Thaïlande où des centaines de secouristes et plongeurs ont entamé ce matin les opérations de la dernière chance. Il s'agit de sauver ses 12 enfants et leur entraîneur de football pris au piège dans une grotte inondée depuis maintenant 2 semaines. Selon un responsable des autorités thaïlandaises, le premier des adolescents secourus devrait émerger des kilomètres de tunnels souterrains vers 16h, heure française. 2 journées de chaos dans les rues de Port-au-Prince et le gouvernement haïtien qui fait marche arrière sur la hausse des prix du carburant. Le Premier ministre suspend donc cette mesure particulièrement impopulaire qui avait déclenché vendredi une vague de violences meurtrières. La rue haïtienne a donc réussi à faire plier le pouvoir politique, Amélie Baron.
L'annonce vendredi après-midi de l'importante hausse des prix des carburants de 38 à 51% a entraîné une vague de violence à travers la capitale. Tous les axes majeurs et même les routes secondaires ont été rapidement condamnés par des barricades en tout genre et des piles de pneus enflammés. Dans la soirée, au moins une personne a été tuée, lynchée par les manifestants, mais le bilan global est pour l'heure impossible à définir. Face à ces violences, tôt samedi matin, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan a fait une déclaration sur la chaîne de télévision d'État pour appeler la population à la patience, expliquant que la mesure était inéluctable. Un tel discours n'a évidemment pas apaisé la colère populaire et la journée de samedi a été le théâtre d'intenses violences. Des commerces ont été pillés, des voitures brûlées. Dans le quartier le plus aisé, très peu de vitrines sont encore aujourd'hui intactes. Finalement, quelques heures après son passage à la télévision, le chef du gouvernement a annoncé que l'augmentation des tarifs des carburants était suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Amélie Baron, la correspondante de Radio France Internationale à Port-au-Prince, l'ambiance n'est plus vraiment à la confiance mutuelle entre États-Unis et Corée du Nord. De retour de Pyongyang, où il a passé 2 jours, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo insiste sur la nécessité de maintenir les sanctions contre le régime nord-coréen tant qu'il n'aura pas pleinement tenu ses promesses de dénucléarisation. À Pyongyang, les médias officiels qualifient les techniques de négociation américaines de regrettables méthodes de gangsters. Au Mali à présent, l'élection présidentielle aura lieu dans 3 semaines avec 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibeka pour Ibrahim Boubacar Keïta. La campagne officielle a donc débuté hier dans un pays toujours très fragilisé par la crise et les attaques djihadistes. La semaine dernière encore, la région de Gao dans le nord du Mali avait été la cible d'un attentat suicide et ces questions de sécurité pourraient bien coûter la présidence à Ibeka. C'est en tout cas l'analyse de Kader Abderrahim de l'Institut de prospective et de sécurité. En Europe.
Je pense que ce sera non seulement au cœur de la campagne, mais que ce sera un des enjeux de la campagne parce que les adversaires du président sortant Ibeka vont avoir beau jeu de démontrer son incapacité à avoir pu à la fois ramener la sécurité dans le pays et permettre au pays de retrouver sa souveraineté parce que jusqu'à présent, malgré tout, même si c'est une opération militaire largement voulue par le Mali et par l'Union africaine, il y a quand même des troupes étrangères sur son sol. Et c'est toujours évidemment embarrassant dans n'importe quel pays en général et a fortiori dans un pays africain. Donc c'est vrai que la situation politique aujourd'hui n'est pas très favorable à l'expression démocratique, à la fois compte tenu de cette présence étrangère, mais également compte tenu de la menace que font régner les groupes terroristes. Ses adversaires vont avoir beau jeu d'utiliser cet argument, parce que c'est vrai que initialement, souvenons-nous quand même, après les mouvements d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sur le Mali, et cette tentative de gagner le pays, en tout cas le contrôle de l'ensemble du nord du Mali, l'intervention militaire française était censée être limitée dans le temps. Elle ne devait pas durer plus de 9 mois. Et maintenant, ça fait 5 ans. Et non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle a continué de se dégrader. Donc, à nouveau, je pense qu'effectivement, et les terroristes et les adversaires politiques du président Ibeka vont être des alliés, je dirais, objectifs, même si ce n'est pas leur souhait, contre la candidature du président Ibeka.
Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, était joint par Maïwenn Bordron. Dans l'actualité française à présent, des voix politiques qui s'élèvent à la veille du congrès de Versailles. Demain, donc, Emmanuel Macron convoque les parlementaires, Sénat et Assemblée réunis pour leur délivrer son discours de politique générale. Il avait promis de renouveler cet exercice une fois par an pendant la campagne présidentielle l'an dernier. Seulement voilà, à droite et à gauche, dans l'opposition, beaucoup ont décidé de bouder le rendez-vous du chef de l'État qui, du coup, est surtout attendu par ses propres troupes, Julie-Marie Lecomte.
Des députés comme Martine Vonneur, élu du Bas-Rhin, ou Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, en ont parfaitement conscience. En un an, la majorité n'a échappé ni au couac, ni au malentendu, et beaucoup de choix sont critiqués.
Il y en a plein, 80 km/h, la CSG, ça revient régulièrement en boucle dans les questionnements.
Ces derniers temps, il y a eu quelques vidéos qui ont été reprises.
Vous parlez du pognon de
table. Voilà, je parle de ça. Cette façon de communiquer a été très très mal comprise. Ça mérite en tous les cas qu'on réexplique.
Président des riches, président des villes, sur le terrain, les troupes s'échinent, déminées, elles ont besoin du renfort du chef. Gilles Legendre est porte-parole du groupe à l'Assemblée.
Nous avons besoin, tous, et les Français aussi, de remettre en perspective ce que nous avons fait, et peut-être plus encore ce que nous allons faire, et que nous soyons capables d'expliquer l'équilibre politique qui guide les réformes très profondes que nous sommes en train d'opérer dans le pays, mais dont nous savons que les Français n'en voient pas forcément toujours le sens qui les guide.
Utiliser le Congrès pour s'adresser d'abord aux siens et à ses électeurs pour justifier sa propre action, c'est précisément ce que ses opposants reprochent à Emmanuel Macron. À droite comme à gauche, ils auraient voulu que le président ne les réunisse pas seulement pour parler, mais plutôt d'abord pour écouter.
Julie-Marie Lecomte est à lire également dans le journal du dimanche aujourd'hui cette tribune co-signée par plus de la moitié des députés Les Républicains. Ils y dénoncent le projet de réforme constitutionnelle porté par l'exécutif, qualifié d'attaque au bazooka contre l'Assemblée nationale. Sous couvert de mots sucrés, modernité, responsabilité, efficacité, peut-on lire dans cette tribune. La pseudo-transformation vantée par Emmanuel Macron est en réalité une régression antidémocratique. La charge, cette fois, de la comédienne Emmanuelle Seigné contre l'Académie des Oscars. Cette dernière lui a proposé de rejoindre ses rangs prestigieux, mais la Française refuse et elle le dit dans la presse. La compagne de Roman Polanski affirme qu'elle est très attachée à la féminisation du cinéma mondial, mais elle reproche à l'Académie des Oscars d'avoir, il y a quelques semaines, mis à la porte son réalisateur de Marie et ce dit-elle, pour satisfaire à l'air du temps. Roman Polanski, en plein scandale Weinstein l'année dernière, avait été rattrapé par ses accusations de détournement de mineurs pour lesquelles il avait plaidé coupable en 1977 et d'autres affaires, dont une de viol de mineurs de 13 ans sous l'emprise de stupéfiants pour lesquelles les charges avaient été abandonnées donc contre Roman Polanski. Un ciel dégagé toute la journée et sur tout le pays. Météo France nous annonce pour cet après-midi des températures comprises au nord entre 23 degrés pour Le Havre et 30 pour Nantes et Paris. Sur la moitié sud, 26 degrés attendus avec de possibles orages sur les Pyrénées-Atlantiques, 27 sur le Massif central, 30 à Lyon et Marseille et jusqu'à 34 degrés pour le Languedoc. C'est François-Charles Domergue qui réalisait les éditions de cette matinée. Merci également à Florent Bujon à la console. À 12h30, prochaine édition complète avec Margot Steve.